Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Comment éduquer la nouvelle génération aux enjeux de la biodiversité ? Réponse, les aires éducatives. Un dispositif qui a fait son apparition ces dernières années dans les collèges et dans les lycées, notamment en Bretagne. Nous allons en parler dans quelques minutes avec François Morisseau, chef de projet aires éducatives à l'Office français de la biodiversité. Mais avant cela, direction Vannes, dans le Morbihan, où nous avons suivi une aire marine éducative du collège Saint-Exupéry, en partenariat avec le parc naturel régional du golfe du Morbihan et la Ligue de protection des oiseaux. C'est un reportage signé Radio Boa, votre radio régionale associative en Bretagne.
On va aller de l'autre côté, on va se rediriger vers l'observatoire. Et on va aller voir par l'autre côté ce qu'on a comme oiseau. Donc je m'appelle Sonia Villalon, je fais partie de la LPO Bretagne. Donc vous avez déjà fait plein de choses sur votre aire marine éducative. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous donner les éléments pour votre projet nichoir. Vous avez émis l'idée d'aider les oiseaux sur votre aire marine éducative. Donc aujourd'hui, on va faire un inventaire. En tout cas, on va observer les oiseaux sur le site pour voir quelles espèces sont présentes et pour voir comment on pourrait aider ces espèces. D'accord ? À votre avis, comment on peut aider les oiseaux ? De quelle manière on peut les aider ?
Bah, en fait, ça dépend de l'oiseau, parce qu'il y a des oiseaux, faut pas leur donner de nourriture sinon ils seront plus débrouillés, et certains, faut surtout leur donner des nichoirs, sinon ils peuvent pas faire, et ça, voilà. Donc en fait, on peut pas vraiment savoir ce qu'il faut pour eux. Parce que selon l'oiseau, bah, il faudra quelque chose de différent.
C'est ça, donc ça c'est ce que je vais vous montrer. Mais en fait, dans ce que vous avez dit, les deux façons que vous avez évoquées pour aider les oiseaux, c'est répondre à leurs besoins vitaux. Quels besoins vitaux ? Si on met une mangeoire, on répond à quel besoin vital ?
De se nourrir.
Voilà, soit on aide les oiseaux à se nourrir. Et dans le cas du nichoir,
Là, c'est à se reproduire.
Le nichoir ne sert pas à se loger, il sert à faire le nid pour pondre les œufs. Donc c'est vraiment le nichoir pour aider à se reproduire. Mais on peut, vous avez raison aussi, les aider à se loger. Pour les aider à se loger, on peut leur fournir la végétation dont ils ont besoin pour dormir. En hiver, par exemple, les oiseaux peuvent dormir dans le lierre, dans des arbustes bien touffus pour être cachés, protégés des prédateurs, éventuellement parfois dans des cavités aussi. Et donc on peut leur fournir la végétation adaptée pour qu'ils puissent passer l'hiver. Alors ce que je vous propose, c'est que grâce à nos jumelles, je vous ai préparé des petits guides de détermination des espèces. On va faire un petit tour et on va essayer d'observer les oiseaux pour savoir les espèces présentes qu'on va pouvoir aider.
Allez, on y va.
Faites pas de bruit, sinon on va pas trouver des oiseaux.
Vous voyez, la grue musicienne, elle répète des motifs comme ça. Elle répète un motif deux, trois fois, puis elle change de motif, puis elle change encore de motif, puis elle change encore de motif. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est musicienne, parce qu'on ne peut pas prévoir ce qu'elle va faire à l'avance. Elle a un chant très varié, très mélodieux. Sonia Villalon, je suis animatrice nature à la LPO Bretagne. Donc le but aujourd'hui, c'est de pouvoir leur donner les éléments, les connaissances, on va dire, pour pouvoir aider les oiseaux. Donc leur idée première était d'installer des nichoirs ou des mangeoires, mais donc ils savent pas forcément quel nichoir mettre pour quelle espèce ou à quoi ça sert le nichoir, est-ce que ça sert à dormir, est-ce que ça sert à se reproduire. Donc moi là l'idée de la séance c'est que je leur apporte les connaissances pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils ont envie d'installer sur leur aire marine éducative pour aider les oiseaux. C'est super parce qu'ils sont vraiment très investis, très curieux. Et puis surtout, c'est eux qui sont acteurs du projet, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent installer. C'est eux qui font les démarches et les recherches pour pouvoir aboutir à leur choix. Donc c'est eux qui choisissent. Et ça, c'est vraiment un point fort en fait, du projet. Nous, notre objectif, c'est d'agir en faveur de la biodiversité. Donc on ne pourrait pas être que à l'intérieur, que dans les classes. C'est essentiel justement que les enfants et même les adultes puissent pouvoir avoir ce lien avec la nature.
Donc je suis Olivier Déré, je suis professeur de PS au collège Saint-Exupéry de Vannes. Et donc je m'occupe de la 6e classe à horaires aménagés sport nature au collège. C'est la deuxième année qu'on met en place que l'aire marine éducative existe au collège Saint-Exupéry de Vannes. Et en fait, là, on a beaucoup d'élèves de 6e aujourd'hui qui sont très très motivés et par la connaissance de leur environnement et par la protection de l'environnement. Ils ont eu des cours sur l'air marine, ont découvert qu'il y a des éléments théoriques qu'ils peuvent découvrir sur le site. Donc je pense que ça les motive. Et puis bon, déjà à l'origine, c'est des élèves qui étaient assez sensibilisés, je pense, à l'école primaire sur la protection de l'environnement.
Qu'est-ce que tu fais, hein ?
Pour l'instant, on coche ce qu'on voit comme oiseau, on entend les sons des oiseaux, et après on les coche sur notre fiche pour savoir quel oiseau il y a. Par exemple, on sait que la grive musicienne, on l'a entendue tout à l'heure, pareil que la pie bavarde, la corneille noire. Pour l'instant, on recherche les oiseaux, on essaie de comprendre ce qu'ils font.
Pourquoi c'est important de faire ça pour vous deux ?
Parce que en fait, si on est en sport nature, c'était justement pour s'approcher de la nature. On aime bien le sport, mais c'était surtout pour s'approcher de la nature. Du coup, justement, ça nous rapproche vers déjà. Là, on travaille sur les oiseaux, mais peut-être qu'un jour, on va travailler sur un autre animal. Déjà qu'on améliore déjà un site, travailler sur des oiseaux, c'est déjà mieux.
C'est important, la protection de la nature ?
Oui, c'est important.
Pourquoi ça ?
Parce que sinon, on irait où quand il n'y en aura plus ?
Il n'y aurait pas des arbres, on ne pourrait plus vivre. Il n'y aurait pas des oiseaux, des musiques.
Même les animaux qu'on croit que ça sert à rien, ils servent forcément quelque chose. Par exemple les moustiques, on pense que ça nous sert à rien parce que ça pique et tout. Mais techniquement sans moustiques, on pourrait pas nourrir les araignées, que eux, justement, c'est eux qui nous en débarrassent. Donc en fait, chaque animal, il sert à quelque chose.
C'est un pigeon bisé ou un pigeon ramier ?
Bien sûr que si.
Pigeon ramier, pigeon ramier.
Et après, tu mets un tas d'armes de bêlons.
De bêlons.
Tas
d'armes. J'imagine pas, il y a qu'il y ait autant d'espèces.
Bah ouais.
Pareil.
Je suis Zara Simard, je travaille au parc naturel régional du Golfe et du Morbihan. En tant que chargée de mission, éducation à l'environnement, et en particulier, j'accompagne les projets d'air éducatif sur le territoire.
À titre perso, moi j'ai trouvé cette classe extrêmement motivée, est-ce que c'est toujours comme ça ?
Souvent la concentration en milieu extérieur, on constate qu'elle est beaucoup plus accrue qu'en classe. Tous les mouvements des collideurs, c'est souvent dans ce cadre-là. Mais oui, comme c'est un projet dans lequel ils sont investis, ils travaillent depuis le début de l'année, ils ont envie que ça aboutisse aussi. Donc il y a un intérêt en fait qui est vraiment personnel. C'est-à-dire que c'est vraiment eux là qui ont sollicité des experts et qui vont chercher des questions. C'est pas descendant comme discours en fait. Voilà.
On est là pour aider la nature, donc c'est notre action.
Et pourquoi c'est important en ce moment d'aider la nature ? Pourquoi ça ?
Il y a beaucoup de pollution, les oiseaux et mer. Il y a des
générations
à sauver la planète.
D'incendie à cause du réchauffement climatique et de la pollution, du coup.
On est vraiment...
Il y a plein d'arguments, en fait, quoi.
Oui. Il y a pas longtemps, je suis allée faire un ramassage de déchets avec mes parents. En à peine 2 heures, on a ramassé plus de 100 kilos de déchets.
C'est vrai que
la population est beaucoup. On aimerait bien que les gens se rendent compte de l'impact qu'ils donnent à la planète. Regardez, il y en a plein qui prennent pas la responsabilité de mettre leurs déchets dans une poubelle. Alors que c'est important.
Je pense qu'ils sont beaucoup plus éduqués, beaucoup plus au courant des choses aussi que nous et que les générations antérieures. En fait, ils ont plus de sensibilisation, plus d'action aussi pour leur faire découvrir toutes ces thématiques et ces problématiques. Eux, ils sont nés un petit peu là-dedans, en fait, dans ces histoires de réchauffement climatique, de perte de biodiversité. Donc, ils sont vraiment beaucoup plus imprégnés et beaucoup plus moteurs. J'espère que dans le futur, ça se vérifiera.
Et vous avez des types de mangeoires à faire maison ou alors en kit bois à acheter ou à construire. Et puis à l'arrière, vous avez conseils pour installer, attention aux chats, attention à l'orientation sud-est, ne pas blesser l'arbre. Voilà, donc les enfants, merci beaucoup de votre attention et de votre curiosité.
Merci.
Et
ça vous a intéressé ?
Oui.
Voilà pour ce reportage tourné en juin dernier sur cette aire marine éducative du collège Saint-Exupéry à Vannes en partenariat avec le parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Alors pour aller plus loin sur ce que sont ces aires éducatives, nous sommes en liaison via les studios de Radio U à Brest avec François Morisseau, chef de projet aire éducative à l'Office français de la biodiversité. François Morisseau, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre ? Est-ce que cette action vous paraît emblématique de ce programme que l'on surnomme aire éducative ?
Oui, ça me paraît emblématique pour plusieurs raisons. On voit bien que les élèves, ils sont extrêmement motivés par leur action. Et ça, on se rend compte à travers tous les projets qu'on suit, que c'est sans doute parce qu'ils sont vraiment acteurs de leur projet, parce qu'ils sentent que les adultes leur font confiance. Et donc ça crée vraiment une forte motivation chez eux de sentir qu'on va les écouter, qu'on va mettre en œuvre ce qu'ils vont vraiment proposer. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi d'assez emblématique dans le collectif, dans la notion de faire ensemble. C'est un des rares projets qu'on fait vraiment avec toute la classe, voire toute l'école, dans ces classes d'âge. Et donc ça permet vraiment de créer des dynamiques importantes au niveau de la classe. Et il y a une troisième chose qui me paraît très emblématique dans ce reportage, c'est la connaissance de la biodiversité de leur territoire qu'on voit. C'est vrai que quand on pense biodiversité, on pense souvent à des choses de type ours polaire, par exemple. Enfin, c'est les premières images qui peuvent nous venir en tête, hein, girafe, éléphant. Alors qu'en fait, on a une biodiversité extrêmement intéressante et importante aussi, très proche de chez nous. Et en fait, là, on voit que ces élèves, ils commencent vraiment à la toucher du doigt et à la connaître un petit peu sur le bout des doigts aussi, cette biodiversité. C'est assez rare.
C'est assez rassurant, finalement, d'entendre cette motivation autour de ces thématiques de biodiversité, de transition climatique. Qu'est-ce que vous en pensez de véritablement de cette motivation des élèves? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt rassurant pour l'avenir?
Je ne sais pas si c'est rassurant pour l'avenir, vu les circonstances actuelles, vu l'été qu'on a eu. C'est peut-être rassurant pour eux, dans le sens où ils peuvent être acteurs. On entend de plus en plus parler d'éco-anxiété. Les jeunes, là, ils sont bombardés d'informations très stressantes sur le changement climatique, sur la perte de biodiversité. Donc là, plutôt que de les responsabiliser à outrance, de leur faire peser le poids du changement de la société demain, on leur donne juste les clés pour agir sur leur territoire maintenant et pour être écoutés par les adultes. Et ça, je pense que c'est très motivant et c'est un des principaux leviers pour lutter aussi contre l'anxiété. Enfin, il y a pas mal de psychologues qui disent ça, hein. C'est de mettre ces jeunes-là en action et de leur donner les clés pour agir. Donc, je pense que c'est rassurant pour eux. C'est rassurant de voir qu'ils s'amusent, qu'ils prennent du plaisir à faire ça, parce que c'est quand même très important quand on est jeune de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et donc voilà, c'est en ça que ça peut me rassurer. Après, je ne ferai pas peser tout le poids du changement sur eux dans le futur. Peut-être que ça me rassure aussi parce qu'on voit que ces projets-là, ils créent des impacts positifs sur les territoires dès maintenant. C'est-à-dire que les jeunes, avec leur motivation, leur énergie... des fois leur innocence aussi, ils vont aller poser des questions, soulever des problèmes que les adultes n'auraient pas posés finalement.
On sent d'ailleurs une petite pointe de reproche vis-à-vis des générations précédentes de ces élèves. C'est peut-être que finalement c'est ça nous rassure, nous, qu'ils semblent vouloir le prendre en charge, et finalement ça peut peut-être aussi de notre côté nous culpabiliser un petit peu par rapport à ce qu'on a fait ces 40-50 dernières années.
Bon, je ne sais pas si c'est l'idée, mais c'est en tout cas de permettre à ces jeunes de faire un projet qui est intéressant pour eux. Ouais. Et de leur permettre de nous interpeller dès maintenant, de ne pas se dire qu'on les forme pour qu'ils puissent changer les choses dans 10 ans quand ils seront adultes, mais de leur permettre juste d'interpeller les personnes qui ont actuellement le pouvoir, c'est-à-dire les gens qui sont beaucoup plus âgés qu'eux, dès maintenant.
Très bien. Qu'est-ce qu'une ère éducative exactement? Si on peut expliquer un peu ce concept, son histoire aussi, comment les choses se sont mises en place sur ces aires éducatives?
Alors, une aire éducative, c'est un petit bout de territoire. Hein. Ça peut faire un hectare, ça peut faire un petit peu plus, un petit peu moins aussi. Des fois, c'est quelques centaines de mètres carrés que des élèves d'une classe vont s'approprier et sur lequel ils vont développer un projet de... préservation de la biodiversité, de la nature, ça peut être aussi du patrimoine culturel, mais aussi du patrimoine naturel, puisqu'ils sont très liés. Et donc, ils vont faire tout ça dans le cadre scolaire. Donc, ils vont y aller avec leurs enseignants, avec une structure d'éducation à l'environnement aussi, qui va les accompagner eux et qui va accompagner l'enseignant, notamment sur des aspects de connaissance de la biodiversité particulière. Ce projet-là, ça va leur permettre... autour d'un objet très concret qui est l'étude du vivant, l'étude de tout ce qui se passe sur ce territoire, de faire des maths, du français, de la géographie. Et donc c'est un projet qui permet d'aborder toutes les compétences du programme scolaire et au-delà de ça de l'éco-citoyenneté autour de quelque chose de très concret. Donc ça, voilà, pour la définition d'une aire éducative. Les aires éducatives, elles sont nées aux îles Marquises, en Polynésie. C'était après une campagne océanographique. Donc ça, c'était en 2012. Et les scientifiques avaient souhaité montrer les résultats de leur campagne donc, sur la biodiversité marine, notamment à des élèves d'une classe. Donc ils leur avaient parlé de biodiversité marine, de protection du milieu marin. Ils leur avaient parlé notamment d'aires marines protégées. Comment on peut protéger un petit bout d'espace marin. Et les élèves de la classe avaient dit, pourquoi nous, on ne pourrait pas protéger un petit bout d'espace maritime proche de notre école. Et en fait, le projet naît là. Ce sont les adultes qui étaient présents, qui ont rebondi sur cette idée des élèves et qui ont dit, en fait, c'est une très très bonne idée. Donc on va vous laisser faire ça et puis on va en profiter pour, autour de ce projet de protection que vous allez mener, faire des maths, du français, de la géographie. Et il y avait une idée très présente à cette époque-là, donc c'était dans le cadre du classement UNESCO des Marquises, enfin d'une réflexion aussi sur le patrimoine culturel, et notamment la perte progressive de ce patrimoine culturel. Donc on sait qu'aux Marquises, il y a une langue marquisienne qui est très liée notamment à la culture maritime, enfin une culture vraiment très liée à la mer, et qui était en train de se perdre de génération en génération. Et dans les aires éducatives, dans leur création à ce moment-là, il y avait l'idée de refaire de l'éducation en lien avec le territoire. Alors, connaître le vivant, connaître tous les êtres qui peuplent ce territoire, mais pas seulement faire finalement de la SVT ou de la biologie, mais aussi connaître toute la culture qui est liée à ce territoire-là. Et donc, refaire de l'éducation en lien avec cette culture et donc en lien avec le territoire, finalement. C'est vraiment né de ça. Et donc, ça, c'était en 2012. Après, ça s'est développé un petit peu aux Marquises. Il y a eu six aires éducatives qui sont créées sur plusieurs îles. Et en 2016, donc on a eu la création d'une expérimentation en métropole et dans les Outre-mer hors Polynésie, dans 8 aires marines éducatives, dont une était située au Forestou, à Brest, qui ont créé leur aire marine éducative, qui existe toujours d'ailleurs à Keraliou, sous le pont de Plougastel.
Et depuis, donc, du coup, c'est assez récent, ce concept d'aire éducative. Effectivement, on en retrouve de plus en plus sur le territoire breton.
Alors, on en retrouve de plus en plus. Donc, aujourd'hui, il y en a à peu près 170, donc aire marine éducative et aire terrestre éducative, puisque le concept s'est étendu au terrestre petit à petit. Le projet s'est développé sur tous les milieux, marins, terrestres, aquatiques, rivières. Enfin, on peut vraiment développer une aire éducative là où on veut, même en milieu assez urbain. Aujourd'hui, le concept se développe beaucoup en lien très fort avec l'Académie, qui a développé un projet d'aire marine éducative régionale et en lien avec l'Agence bretonne pour la biodiversité. En gros, on a monté un groupe régional aire éducative avec l'Éducation nationale, donc l'Académie, l'Agence bretonne pour la biodiversité, la région, l'ADREAL, et la direction régionale de l'Office français de la biodiversité, et le REB, qui est le réseau d'éducation à l'environnement Bretagne, plus tous les partenaires pertinents au niveau régional. Et donc ça permet d'accompagner les enseignants qui souhaitent se lancer et de favoriser le développement du dispositif.
Alors j'imagine que depuis la première expérience aux Marquises, il y a effectivement un esprit, une philosophie qui entoure ces aires éducatives. Comment ça a été conçu et quelle est un petit peu la façon d'encadrer justement ces aires éducatives au niveau de l'esprit?
Alors ça a été conçu vraiment avec cette idée de rendre les élèves acteurs. S'il y a un point central dans les aires éducatives, c'est vraiment celui-là, c'est de permettre aux élèves de créer, monter leur propre projet. Et ça a été créé en s'inspirant de la gestion des aires protégées. Et donc, le matériel, la méthodologie qu'on leur met entre les mains pour créer leur propre projet, parce qu'on ne peut pas leur dire juste « créez votre projet d'aire éducative » et sans aucune piste pour les aiguiller. Donc nous, on leur donne des étapes qu'ils doivent suivre pour pouvoir développer une pensée, des réflexions pertinentes par rapport à la préservation de leur site. Et donc ces étapes-là, elles viennent vraiment de tout ce qui a été créé, pensé dans le domaine de la protection de la biodiversité. Donc ça commence bien sûr par choisir un site. Ensuite, c'est apprendre à le connaître. On ne peut pas décider de faire quoi que ce soit comme action de préservation de la biodiversité sans d'abord connaître à la fois les écosystèmes qui sont présents, les activités humaines qui sont présentes. Tout ce qu'on va faire sur un site, ça peut impacter à la fois les écosystèmes, mais à la fois les activités humaines. Donc, dès qu'on va s'intéresser à ce petit bout de territoire, on va devoir gérer à la fois de la biodiversité, mais surtout de l'humain. Et donc, les élèves vont devoir se mettre en lien avec tous ces acteurs-là. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans le projet, c'est qu'ils vont très vite comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls sur leur site et qu'en fait, ils vont devoir faire avec les autres usages, les autres usagers, les autres manières de penser. Et donc, finalement, c'est vraiment un apprentissage de la démocratie, d'arriver à comprendre d'autres points de vue. Et au fur et à mesure que le projet avance, on se rend vraiment compte que cet apprentissage de l'éco-citoyenneté et surtout de la citoyenneté, c'est vraiment central dans les aires éducatives.
Oui, il y a cette idée d'éco-citoyenneté, de reconnexion à la nature. On est finalement un petit peu dans le même mouvement que le mouvement des écoles dehors qui se développe aussi progressivement en France.
Oui, complètement. Alors, c'est vrai que là, je viens de parler vraiment de l'éco-citoyenneté. Et c'est quelque chose qu'on voit, qu'on découvre aussi au fur et à mesure avec les aires éducatives. C'est comment, à travers ce projet-là, les élèves vont apprendre différemment et apprendre en lien avec le dehors. Alors, il y a beaucoup de choses qui sortent actuellement sur les bienfaits de faire de l'école en extérieur, en fait, les bienfaits en termes de concentration, en termes d'apprentissage, en termes de santé publique. On voit que dans ce sens-là, les aires éducatives et l'école dehors se rejoignent, puisqu'il y a toujours cette idée d'être à l'extérieur. Et ce qu'on peut ajouter dans les aires éducatives, puisque en fait, on peut tout à fait faire un projet d'école dehors, par exemple, où on va aller faire cours tous les jours une fois par semaine ou une fois par mois sur le même espace. Et on peut ajouter avec la méthodologie aires éducatives une dimension de découvrir progressivement les autres vivants qui peuplent cet espace-là et commencer à se poser la question de nos interactions avec cette biodiversité, ces écosystèmes-là. Est-ce qu'on va les impacter ou non en venant, par exemple, faire école dehors? Ou est-ce qu'il y a d'autres usages qui impactent ce petit bout de territoire sur lequel on fait école dehors? Et donc, on va vraiment essayer de créer une réflexion sur nos interactions avec la nature, finalement, tout en favorisant vraiment cette reconnexion à la nature. Alors, je ne sais pas si on peut parler de reconnexion. Il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus. Hein. Peut-être qu'on n'a jamais été vraiment connecté. En tout cas, en favorisant un nouveau rapport à la nature, puisqu'on sait que les nouvelles générations sont de plus en plus devant des écrans ou en intérieur, qu'elles sont de moins en moins en interaction avec l'extérieur, la nature, le vivant. Et en fait, ça s'est su depuis très, très longtemps, hein. C'est un vieux dicton, mais on ne protège que ce qu'on connaît et que ce qu'on aime finalement. Et donc, ça nous semble très important dans les années à venir. Si on ne veut pas créer une génération d'élèves qui ont juste oublié leur rapport avec le vivant ou qui n'en ont pas développé, de vraiment faire en sorte que ce lien au vivant existe.
Oui, donc changer le rapport au vivant, ou en tout cas l'injecter un petit peu dans leur conscience et leur faire prendre conscience aussi des autres vivants qui peuvent les entourer. C'est bien ça l'idée, quoi.
C'est exactement ça, oui. On voit dans certaines écoles des exemples assez intéressants. Là, je discutais avec un enseignant d'une aire terrestre éducative qui me disait qu'ils ont commencé à travailler sur un espace de pelouse proche de l'école qui était utilisé pour faire du foot, faire des activités, organiser des fêtes de temps en temps. Et en fait, les élèves ont commencé à s'intéresser à tous les êtres vivants qui peuplaient la surface sous cette couche de pelouse, finalement, qu'ils n'avaient jamais regardé, qu'ils n'avaient peut-être jamais même imaginé. Ils ont commencé à découvrir toute cette diversité d'êtres et leur importance capitale pour notre monde, finalement. C'est parmi les êtres les plus importants. Hein. Si les insectes s'écroulent, on n'existe plus, en gros. Donc, ils ont vraiment commencé à voir quelque chose qu'ils ne voyaient pas avant. Et du coup, dans les autres événements qu'ils ont organisés après, dans tout ce qu'ils ont pu faire par la suite, dans le cadre de leur projet d'aire éducative sur cette zone, ils ont vraiment commencé à prendre en compte ces autres vivants qui peuplaient cette zone et qu'ils ne voyaient même pas avant de commencer le projet.
Au-delà de cette action bénéfique pour l'éducation à la préservation de la biodiversité, est-ce que ces aires éducatives sont aussi bénéfiques dans le parcours scolaire de ces enfants ?
Alors là-dessus, on n'a pas d'études précises scientifiques. Ce qu'on sait, c'est que l'école dehors, dans tous les cas, le fait d'enseigner dehors est bénéfique en termes de santé et en termes d'apprentissage. Et ce que nous disent les enseignants du réseau, en grande majorité qu'on a interviewé, c'est que ça crée des dynamiques de classe très positives, des dynamiques collectives, et que ça permet à des élèves qui sont en difficulté de retrouver du sens dans l'école. C'est parfois dur pour certains élèves de trouver du sens dans le fait de juste de développer une compétence en mathématiques, on va juste lui apprendre à faire des maths. Et là, le fait de faire ça dans le cadre d'un projet concret qui donne beaucoup de sens pour ces élèves-là, ça leur permet de finalement raccrocher l'enseignement scolaire et le fait de pouvoir apprendre à faire des maths, à lire, à écrire, à compter et de développer plein d'autres compétences extrêmement importantes aussi pour devenir des éco-citoyens demain qui pourront participer à construire un monde un petit peu meilleur.
Effectivement, donc on comprend que c'est multidisciplinaire et que ces aires éducatives aident effectivement ces élèves dans leur parcours et puis dans leur prise de conscience future. Comment l'Office français de la biodiversité accompagne ces aires éducatives ? Quel est un peu votre rôle sur le territoire, notamment en Bretagne, pour ces aires éducatives ?
Alors, notre rôle, il change au fur et à mesure que le projet se développe. Donc, en 2016, on a lancé l'expérimentation, on l'a financée. Et on a donc surtout beaucoup écouté les 8 écoles pilotes qui mettaient en place leur projet. Ça nous a permis de créer une méthodologie en fait pour accompagner les enseignants et les élèves dans la mise en œuvre de leur aire éducative. Et donc c'est ça finalement qu'on fait, qu'on continue à faire, c'est développer des outils en se basant sur tous les retours du réseau. Hein, aujourd'hui, il y a plus de 1000 aires éducatives en France, hein, donc en métropole et dans les Outre-mer. Et donc on continue à essayer d'écouter le plus possible les retours de tout ce réseau-là pour améliorer, pour développer de nouveaux outils qui peuvent aider à mettre en place plus facilement les projets. On finance aussi les aires éducatives, on a un appel à projet pour pouvoir aider au développement de projets, donc c'était 600 000 euros cette année, qui sont donnés directement aux écoles ou aux associations d'éducation à l'environnement qui veulent les accompagner. Et on essaie de favoriser vraiment la mise en place d'un réseau où les écoles, les enseignants peuvent s'entraider, où les élèves des différentes écoles peuvent créer des échanges autour de leurs différents projets d'aire éducative. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de favoriser de plus en plus au niveau national.
Justement, pour les enseignants, les élèves et même leurs parents qui souhaiteraient s'informer plus encore sur ces aires éducatives, ou souhaiteraient que peut-être leur école puisse s'engager là-dessus, quels seraient les sites de référence qu'ils peuvent aller consulter pour encore mieux s'informer ?
Donc vous pouvez aller sur le site de l'Office français de la biodiversité en tapant aire éducative. Après, je pense qu'en tapant aire éducative sur Internet, il y a quand même déjà pas mal d'informations qui sortent. Et donc, comme je le disais, sur le site de l'OFB, il y a une information très détaillée sur la méthodologie, le concept en lui-même. Vous pouvez aussi aller sur le site de l'Académie de Bretagne, où il y a aussi des informations sur les aires éducatives. Et sur le site de l'Agence bretonne pour la biodiversité, qui, comme je le disais, anime cette réflexion et cette dynamique régionale, et qui mentionne aussi beaucoup d'informations sur les aires éducatives.
François Morisseau, merci. Je rappelle que vous êtes chef de projet aires éducatives à l'Office français de la biodiversité, délégation Bretagne. Merci également à Vincent Leyoc de Radio U, votre radio universitaire à Brest, pour la réalisation technique de ce duplex. Et donc, à très vite pour un nouveau numéro de Biodiversité en air. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par l'Accor Lab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.